France Inter.
Ce soir, eh bien, c'est un plaisir particulier que je vous convie pour commencer, celui d'écouter la voix d'une sorte de perdant, enfin qui n'a rien de magnifique, mais qui sait manifester à sa façon une sorte d'élégance narquoise.
You smuggled a grin. You left me hanging, an empty horizon. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. There's a fragment of love left on tattered soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made.
Al Baroni, un tout nouveau titre signé par le chanteur anglais, plutôt diseur que chanteur d'ailleurs, Baxter Dury. C'est l'entrée en matière de son nouvel album qui porte le même titre, donc de Al Baroni, anglais. Alors Baxter Dury l'est, oui, mais depuis longtemps, il est plus connu et apprécié en France que dans son pays natal, même si les choses sont sans doute en train de changer pour lui. Al Barone, que vous venez d'entendre, c'est l'évocation d'un lapin, un rendez-vous galant non honoré, si vous préférez, pour employer un registre de langue plus élevé. Le gars a vraisemblablement ferré, hein, comme on dit, enfin c'est ce qu'il croit, une fille sur un site de rencontre. On devine qu'ils sont peut-être vus une ou deux fois. Ça semblait très prometteur, elle lui a même filé son numéro. D'ailleurs, avant même qu'il la rencontre pour un verre, le gars a réservé une chambre d'hôtel remboursable, hein, on sait jamais. Et puis rien, elle a disparu, elle ne répond plus à ses textos, et ses appels, n'en parlons pas. Alors le pauvre gars, il est là comme un nul, il avait tout programmé, cette fois c'était la bonne, et il se retrouve donc là, minable, assis à la terrasse d'un bar, sur laquelle, pour couronner le tout, il reçoit la pluie. C'est un peu ce soir, j'attends Madeleine de Brel, version contemporaine. Le bar Al Barone, en fait, c'est en fait la prononciation déformée que pourrait faire un Italien ou une Italienne du nom d'un bar à cocktail anglais. Derry a dû entendre ça, ça l'a fait marrer. En fait, c'est All Bar One, hein, en trois mots, un nom qui repose sur un jeu de mots, sur le mot bar, qui en anglais peut signifier bar, bien sûr, mais aussi hormis ou à part. Il y a d'ailleurs toute une chaîne au Royaume-Uni de ces All Bar One, hein, tous sauf un. Comme je vous le disais, Baxter Derry fait l'objet d'une sorte de culte en France depuis une bonne vingtaine d'années déjà. En fait, beaucoup avaient une grande admiration pour son père, Ian Derry, mort trop tôt en 2000, donc ceci explique un peu cela. Alors, en deux mots, qui était Ian Derry? C'était un personnage hors du commun, un cockney londonien que j'ai vu plus d'une fois sur scène avec son excellent groupe, les Blockheads, un des meilleurs de la période, de la fin des années 70, début des années 80, qui était d'ailleurs funk bien plus que punk, d'ailleurs, musicalement, même si c'était très punk dans l'esprit. Ian Derry, on le connaît surtout grâce à sa chanson assez funky, justement, Sex and Drugs and Rock and Roll, une chanson à l'origine très ambiguë, dont les paroles tournaient en ridicule une sorte de parasite du show business, un type empli de vanité, uniquement préoccupé par son apparence et obsédé, comme disait la chanson, par le sexe, les drogues et le rock'n'roll. Ian Derry, je peux vous dire qu'il a profondément marqué ceux qui l'ont vu, j'ai eu la chance, la joie même d'en faire partie, ce londonien au fort accent cockney était un type très impressionnant, limite effrayant, d'ailleurs était aussi impressionnant sur scène que dans la vraie vie. Cet ancien polio avait gardé une patte folle et sur scène, loin de masquer son handicap, il l'exhibait crânement. Il arrivait sur scène vêtu et maquillé comme un prestidigitateur louche en s'appuyant sur une canne au pommeau rutilant. Il exagérait sa démarche contrefaite et jouait avec un mouchoir en dentelle. Et je peux vous dire qu'à côté de Ian Derry, les jeunes punks avaient l'air de blanc-bec inoffensif. Son fils Baxter a raconté que dans la vie de tous les jours, son père était aussi très très bizarre. Ian Derry aimait provoquer dans les pubs les clients dont la tête ne lui revenait pas. Il partageait des pétards avec son fils Baxter quand celui-ci avait seulement 13 ans. Et il le faisait accompagner à l'école par un gars qui était lié au milieu, enfin des gangsters, un revendeur de drogue qui mesurait 2 mètres de haut. Il y avait, paraît-il, une haleine de chacal et on le surnommait de Sulfate Strangler, l'étrangleur au sulfate. Baxter a évoqué cette enfance hors du commun dans un récit hélas non traduit qui s'appelle Chaise Longue en français dans le texte. Alors Baxter Derry raconte qu'il a quitté l'école à 14 ans et il s'est longtemps cherché, il a travaillé sur des chantiers, dans des restaurants et aussi je crois qu'il vendait des montres à un moment. Il a publié son premier album alors qu'il avait déjà plus de 30 ans. Il a toujours su s'entourer d'excellents musiciens, Jeff Barrow de Portishead à ses débuts, les français Étienne de Crécy, et Fabienne Desbar aussi du groupe We Love Evergreen, c'était il y a une dizaine d'années. Et ces derniers se sont tout de suite sentis connectés à la désinvolture très travaillée à la Gainsbourg qui caractérise l'élocution, l'intonation et en général l'esprit de Baxter Derry. Et cette aptitude qu'il a à incarner dans ses récits des personnages de paumés, dans son cas de miteux, se voulant flamboyant, de gangsters un peu minables. Il a toujours eu l'élégance de cacher un travail très précis, long et acharné sur les mots, les intonations et les sonorités, un travail aussi théâtral que musical au fond, derrière une modestie pleine d'autodérision et c'est sans doute pour ça qu'on aime tant Baxter Derry en France. Baxter a travaillé à son nouvel album avec un certain Paul Epworth qui n'est autre que le superviseur des enregistrements de la chanteuse Adele et il est très polyvalent puisqu'on l'a vu aussi bien auprès du Californien Beck comme du New Yorkais Thurston Moore, bien sûr le fondateur de Sonic Youth. Baxter Derry se produira le 4 décembre prochain à la salle Pleyel à Paris et le lendemain, le 5, au Transborder, c'est à Lyon. Voici maintenant un autre chanteur Deezer londonien, Charlie Steen et son groupe Shame, comme honte. Et ce titre Cutthroat, hein, comme coupe-gorge, est aussi celui du nouvel album de Shame, assez varié dans le style de ses chansons. Ça fluctue entre rap, rock funky à la Franz Ferdinand parfois, et électropop assez rude, assez martial. On pense parfois au style de certaines chansons des premiers albums du groupe dublinois Fontaines D.C. Cette nouvelle chanson signée Shame maintient un très bon équilibre entre agressivité et insinuation douce, un peu perverse. Shame se produira le 28 septembre prochain, attention c'est un dimanche, à la Cigale à Paris, mais il y aura d'autres dates françaises début novembre à Lyon, Reims et Lille. quelque chose de l'électropop industriel de Nine Inch Nails dans ce nouveau titre théâtral et sauvage, High Resolution Sadness, extrait du nouvel album que signe la chanteuse française Jenny Beth, You Heartbreaker You. Alors, Jenny Beth a longtemps résidé à Londres, hein, où elle s'est fait connaître et remarquer sur un plan bien sûr international, il y a plus de 10 ans déjà. Il y a quelque chose aussi dans ce titre qui me rappelle le versant furieux de PJ Harvey, un versant d'ailleurs que la musicienne anglaise a cessé d'explorer il y a bien longtemps, plus de 20 ans déjà. Hein, j'évoque ici son album de 2004, au titre difficile à prononcer, mais enfin j'essaye toujours. Et d'ailleurs, PJ, enfin ses amis l'appellent Polly Harvey, est resté, enfin d'après les informations dont je dispose, est resté proche de Jenny Beth, qu'elle a beaucoup encouragée et soutenue tout au long de sa carrière. Jenny Beth a enregistré son nouvel album, donc qui s'appelle You Heartbreaker You, avec son compagnon et collaborateur privilégié, un musicien français qui porte le pseudonyme grinçant de Johnny Hostile. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont évolué, elle a évolué du son anguleux, tendu et oppressant, comme en noir et blanc, de Savages, le groupe qu'il a révélé, à quelque chose de plus généreux, de plus ample, où le lyrisme théâtral de sa voix s'élance sur un fond de métal industriel. Jenny Beth et Johnny Hostile ont voulu, pour enregistrer cet album, se fixer des règles. J'ai lu ça, une série de préceptes, hein, qui sonnent comme un manifeste, c'est un peu entre les principes du dogma 95 du cinéma danois, vous savez, qu'avaient élaboré il y a 30 ans Thomas Vinterberg et Lars von Trier, et les aphorismes énigmatiques des, entre guillemets, stratégies obliques de Brian Eno, qu'il avait imaginé il y a un demi-siècle. Alors, la première règle, citée dans un portrait que dressait de Jenny Beth en juin dernier un journaliste de l'hebdomadaire britannique The Observer, je vous en avais parlé, je vous cite à nouveau, c'est un principe très encourageant, c'est « rien n'est aussi compliqué que ça en a l'air ». Je peux vous dire que j'essaye toujours d'appliquer ce principe. Et le cinquième principe, c'est la musique, deux points, écoute, réagis, abandonne, oublie, retourne-y et répète. Rien à dire, c'est parfait. Jenny Beth et son groupe se produiront le 11 octobre prochain à Tourcoing au Grand Mix. Ils seront enfin le 17 à Lyon au Marché-Gare. Et puis ils seront le 13 octobre, mais c'est complet. C'est à la Maroquinerie, mais il y aura un second concert le 14 octobre prochain. Voici à présent le retour d'un groupe de métal, enfin métal au sens large, qui a toujours occupé une place à part dans cet univers du métal. C'est un groupe de la région de San Francisco qui a pu intéresser des amateurs comme moi qui n'ai rien d'un spécialiste du métal. J'ai découvert les Deftones, il s'agit d'eux, il y a un quart de siècle déjà, c'était en 2000, à la sortie de leur troisième album White Pony, que j'avais acheté sur la foi d'une critique de Nick Kent dans Libération. Nick, dont les écrits, dès mon plus jeune âge, m'ont exalté, passionné et m'ont donné envie de tout explorer sans préjugés. Dès leurs premiers enregistrements connus, au milieu des années 90, les Deftones se sont tenus à un point d'équilibre assez original entre metal et grunge, adoptant une rythmique funky et embrassant certains sons de rock industriel à la Nine Inch Nails. Je vous en parlais tout à l'heure justement à propos de Jenny Beth. On entendra d'ailleurs un nouveau titre de Nine Inch Nails tout à l'heure. Alors, le nom de Deftones vient d'un jeu de mots, j'imagine, avec Tone Deaf, qui en anglais désigne quelqu'un qui n'a aucune oreille musicale et qui chante faux. Ce groupe a été le porte-étendard de ce qu'on a appelé le New Metal ou Neo Metal, à égalité avec le groupe Korn, hein, qui a été un des plus populaires de la fin du siècle dernier. Et puis on a pu aussi désigner Deftones comme le Radiohead du métal, pour ses ambiances lancinantes et tourmentées, et la voix vibrante et déchirée du chanteur Chino Moreno, qui est très éloigné des hurleurs gutturaux qu'on rencontre habituellement dans le métal. Et puis les Deftones ont introduit très tôt dans leur musique d'autres éléments appelés néo-psychédéliques, planants, atmosphériques, enfin tout ça rend le parcours de ce groupe absolument passionnant, et d'ailleurs je leur consacrerai un entre guillemets concert idéal dans l'émission d'après-demain, mercredi 17 septembre. Le nouvel album que signent les Deftones, Private Music, marque un événement dans la communauté de ses admirateurs puisque c'est le premier depuis 5 ans. Ce titre que je vous propose d'écouter s'appelle Ecdysis, en français Ecdysis, ça se désigne, je ne le savais absolument pas, le processus de mue de certains insectes dont la membrane externe, hein, la cuticule si vous voulez tout savoir, craque quand ils croissent. We'll be right back.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Soul comme seul ou unique, c'était le titre de la chanson que signe le groupe californien Turnstile. Non, il n'est pas californien, il est nord-américain, il est de la côte est, pardon. Un son entre metal, hardcore et pop contemporaine, un collage qui peut déconcerter mais qui séduit un public croissant, sans doute bientôt massif. En tout cas, c'est ce que j'ai pu juger en juin dernier à l'occasion du dernier Hellfest où France Inter était présent. Et Turnstile s'est produit tard un soir dans ce qu'on appelle là-bas la War Zone, et c'était, je peux vous dire, un des groupes les plus attendus, voire le plus attendu du festival, et l'attente était palpable dans le public, qui était très, très énergique. Turnstile a donné un concert extrêmement intense. Alors le chanteur Brandon Yates, qui est né en 1990, se présente sur scène dans une tenue qui est toujours délibérément banale et ordinaire, un veste et pantalon noir, pour révéler, enfin quand il retire sa veste, un t-shirt blanc, style, vous savez, premier prix. En fait, il a plus la dégaine d'un technicien de scène que d'un leader, et c'est en partie pour ça que le public l'a adopté massivement. Brandon Yates, le guitariste de Turnstile, principal Pat McCrory et le bassiste noir Franz Lyons, ainsi que le batteur Daniel Fang, sont des musiciens autodidactes qui ont grandi dans diverses zones de cette vaste banlieue ininterrompue qui se trouve entre Washington et la ville de Baltimore, à la capitale de ce petit état qui s'appelle le Maryland et qui se répartit d'ailleurs des côtés de la baie à l'est de Washington. C'est au sein d'une université du Maryland qui se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années. Yates étudiait là-bas la kinésiologie, les sciences et les mathématiques et le droit pénal, tout ça, mais rien ne l'a intéressé. C'est en suivant un enseignement à distance, en télétravail, pendant les tournées de son groupe Turnstile, que Brandon Yates a obtenu un diplôme en communication. Le groupe a publié son premier album il y a 10 ans, en 2015, à compte d'auteur. Il a percé auprès d'un très large public grâce à son troisième Glow On, qui a été publié en 2021, et supervisé par un musicien de Los Angeles qui est vraiment un sacré pédigré puisqu'il a travaillé à des titres de Eminem avec Dr. Dre. Brandon Yates lui-même a co-réalisé le nouvel album de Turnstile, Never Enough, dans un studio de Topanga Canyon. C'est pour ça que je parlais de la Californie, c'est sur les hauteurs de Los Angeles. C'est une musique alors qui est très accessible parce qu'elle est capable de rassembler tous les publics et peut-être aussi toutes les générations. À certains moments, Turnstile pourrait évoquer le versant hardcore de Nirvana en moins oppressant. À d'autres moments, Brandon Yates chante un peu comme Sting. On croirait parfois entendre des passages d'un album de The Police. Et à d'autres, il y a des passages planants à la Pink Floyd. Je vous parlais tout à l'heure du groupe Nine Inch Nails à propos du son de Jenny Beth. Voici justement un nouveau titre que le fondateur, compositeur, multi-instrumentiste et chanteur de Nine Inch Nails, Trent Reznor, et son collaborateur anglais, le compositeur Atticus Ross, spécialiste de ce qu'on appelle le sound design, un des morceaux qu'ils ont composé pour la BO du film Tron, le troisième de la série qui s'appelle Tron Ares. C'est Daft Punk qui en 2010 avait créé la musique du deuxième, Tron Legacy, et donc 15 ans après, Reznor et Ross se sont associés pour faire la suite de Tron. Alors, il faut dire qu'ils se sont affirmés comme des compositeurs de musique de film en duo de premier plan. Ça va de David Fincher à Luca Guadagnino. Ce nouveau titre signé Nine Inch Nails s'appelle As Alive As You Need Me To Be, aussi vivant que j'ai besoin de l'être pour toi. Et Nine Inch Nails a fait d'ailleurs cette année un retour au premier plan et le groupe achève en effet ces jours-ci une grande tournée mondiale qui est passée par Paris en juillet dernier. Paris où le groupe a gardé beaucoup de fidèles puisqu'il a rempli l'Accor Arena de Bercy.
Me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. And if I had a choice, connection, I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. Trying to find a way to let itself out. Yeah.
Because We Built It, un nouveau titre signé par un musicien nord-américain du nom de John Mouse, M-A-U-S, prélude à son nouvel album Later Than You Think, qui sortira dans une dizaine de jours. Un son qui nous replonge dans un certain courant froid de l'après-punk des années 1979-1980, un courant qui a grandement contribué à modeler mes goûts musicaux, hein, je le confesse. John Mouse est né précisément en 1980, l'année où certains pionniers très en avance sur leur temps ont commencé à explorer ce type de son. Alors c'est un cas vraiment à part, ce Mouse, dans le paysage de la musique populaire actuelle qui recèle pourtant beaucoup de spécimens bizarres. Il est descendu de son Midwest natal pour étudier la musicologie au tout début du siècle, hein, au California Institute of the Arts. Et puis, il a brusquement lâché ses travaux savants pour descendre dans l'arène. Il a accompagné un certain Ariel Pink, hein, j'ai eu l'occasion de vous en parler, et le groupe Animal Collective, avant de se lancer tout seul dans des performances qui peuvent rappeler certains prophètes de l'underground, de l'après-punk du début des années 80. En chemise neutre ou en chandail, jeans informes, avec sa coiffure de 1983, j'avais à peu près la même d'ailleurs, John Mouse se livre de sa voix de baryton à des incantations aussi lugubres que passionnées, inspirées face au mauvais état du monde. Il se frappe la poitrine, il fait de grands gestes désordonnés, accompagné par des synthétiseurs pré-réglés et un groupe, hein, depuis quelques années. Il a quelque chose d'envoûtant qui évoque plus le prêcheur désaxé que le musicien. Enfin, c'est néanmoins, enfin, même si c'est un adjectif un peu irrespectueux, c'est assez divertissant. Chose étonnante, John Mouse a soutenu il y a une dizaine d'années une thèse de philosophie politique inspirée par l'enseignement du marxiste Alain Badiou, hein, vénéré dans les les milieux universitaires des États-Unis. Et alors, il s'est quand même passé quelque chose de très dur dans la vie de John Mouse, puisque voici 7 ans, il a eu la douleur de perdre brutalement son frère Joseph, un musicien avec lequel il collaborait. Il est tombé alors dans une dépression dont il témoigne être sorti en assistant à une messe en plein air. Et ça a eu pour effet de le faire se tourner vers Dieu, vers la spiritualité. Il a raconté dans un article récent à Marie Cloque de Libération qu'il a passé un mois avec des bénédictins qui se sont établis quelque part dans l'Oklahoma au milieu des bois, et il s'est initié auprès d'eux à la pratique du chant grégorien. En 2020, alors c'est une affaire assez trouble, John Mouse s'est vu accusé par certains milieux d'être un activiste pro-Trump parce qu'il était présent au moment du tristement célèbre assaut du Capitole à Washington. C'était plutôt au début de 2021, je crois, pour être précis. C'était pour les besoins d'un documentaire, et on l'a vu filmant parce qu'on l'avait vu filmant les événements, donc on pensait qu'il était sympathisant, et des gens ont cru bon de l'incendier sur les réseaux sociaux. On connaît hélas tout ça. John Mouse donnera plusieurs concerts en France en novembre prochain. Autre chose, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps du duo Water From Your Eyes. Water From Your Eyes, c'est un duo que le New-Yorkais Nate Amos a formé à Brooklyn avec sa copine Rachel Brown. Et donc ces deux-là se sont rencontrés il y a quelques années à Chicago. Et la musique qu'ils font est assez déconcertante dans le bon sens du terme. Water From Your Eyes, c'est un peu plusieurs sons en un seul. Alors déjà, il faut décrire leurs apparitions scéniques. La chanteuse coupe courte, lunettes noires sur scène, a une de ses voix non concernées, hein, comme on dit, comme blasée et indifférente à ce qu'elle raconte. Ça sonne très new-yorkais. C'est quelque part entre chant et une sorte de rap un peu lymphatique. Il lui arrive aussi à Rachel Brown de retirer ses lunettes noires et de chanter autrement, d'une voix comme flûtée, doucement voilée de chanteuse de bossa nova brésilienne. Quant à Nate Amos, eh bien, il a cette belle voix naturelle qui descend facilement dans les graves. Le duo vient de publier un nouvel album dont les chansons constituent d'étranges télescopages sonores. On pourrait citer une quinzaine de références quand on les écoute, je ne vais pas vous assommer avec ça, des Raincoats à My Bloody Valentine en passant par Stereo Lab. Je suis sûr qu'une écrasante majorité parmi vous n'a jamais entendu parler de ces groupes, et ça n'a strictement aucune importance. Les sons de Water From Your Eyes sont vraiment ceux d'une certaine électropop expérimentale tout à fait contemporaine. En tout cas, c'est plein d'inventions, de fraîcheur et de légèreté, de drôlerie aussi parfois. C'est très agréablement instable et déséquilibré, pour ainsi dire, comme en témoigne ce titre qui s'appelle Life Signs, par lequel démarre le nouvel album de ce duo, donc Water From Your Eyes. L'album s'appelle It's a Beautiful Place, et c'est bien sûr ce soir dans Very Good Trip sur France Inter. Thank you.
trip.
Very good trip.
Sur France Inter, Mishka Assayas.
Non mais Cambiaras, c'est essayé par un duo catalan, en tout cas né à Barcelone, il y a un peu moins de 10 ans, du nom de Dame Area. Il est né de la rencontre accidentelle dans un club de musique électro qui s'appelle Marchia Roja, Magie Rouge, d'une Italienne du Nord, Silvia Constanz, et d'un Catalan, Victor Crux. Inspiré par l'ambiance effervescente, propice à la fantaisie et à l'invention, eh bien, Silvia a eu envie de se lancer sur scène. Alors, elle chante et l'éructe aussi en espagnol, mais également dans sa langue natale, l'italien, sans oublier l'allemand et le turc. Il y a quelque chose qui me fait penser au duo français légendaire Casse Product qu'avait créé à Nancy il y a plus de 40 ans déjà la chanteuse Mona Soyok et le regretté Spatz. Casse Product, depuis plusieurs années, s'est réactivé comme un volcan éteint. Mona a réuni un nouveau Casse Product avec Pierre Corneau à la basse et Thomas Bouettel au synthétiseur et aux machines. C'est une des chanteuses les plus impressionnantes que j'ai pu voir et entendre sur scène. Sa voix est aussi puissante que sincère, sa présence dure et enflammée à la fois. Elle pourrait être le modèle conscient ou inconscient, je ne sais pas, de PJ Harvey, comme de Jenny Beth. Et il me reste à vous dire que Casse Product jouera le 18 octobre prochain à Liboat à Bordeaux et le 20 à Ilkirch Grafenstaden, au sud de Strasbourg, dans une salle qui s'appelle l'Iliade. Ce nouveau titre s'appelle Showdown.
Vibrant.
Lost its horns. The colors are vibrant, and the sound.